Oui, au cours des dernières semaines, les gens, notamment sur les médias sociaux, se sont enflammés pour le Ice Bucket Challenge, le défi du seau d'eau glacée qui servait à amasser des fonds pour les sociétés de la SLA, sclérose latérale amyotrophique, une maladie assez méconnue, mais qui l'a fait connaître. Et c'est la bonne nouvelle de cette campagne qui a été fort médiatisée, qui nous a sensibilisés et qui nous a permis d'apprendre que c'est une maladie qui touche environ 600 Québécois, près de 3000 Canadiens. En sont présentement atteints Dr Geneviève Matt, elle qui est neurologue au CHUM Hôpital Notre-Dame, également responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et des maladies du neurone moteur, nous en parle. Merci d'être là, Dr Matt.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Donc, on a entendu parler beaucoup du défi du seau d'eau glacée, peut-être un petit peu moins de l'ASLA, de ses causes, de ce que c'est cette maladie-là réellement. Et vous êtes là pour nous en parler. Qu'est-ce qui la caractérise?
Donc, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte les neurones moteurs. Donc, le patient va subir là, une faiblesse musculaire progressive qui va gagner là, tous les membres du corps sans toutefois toucher les capacités cognitives. Et donc, les patients deviennent prisonniers de leur corps, entre guillemets. Là. Et c'est encore incurable, malheureusement, en 2014.
C'est encore incurable parce que les recherches ne nous ont pas permis de trouver un remède ou un traitement définitif.
En bref, c'est ça. On a un seul médicament là, qui permet de ralentir un peu la maladie. Ça s'appelle le riluzol, mais ça prolonge la survie de quelques mois seulement. Compte tenu que c'est une maladie d'évolution très rapide, on parle de quelques années seulement. C'est pas négligeable, mais c'est encore bien peu.
Quand on parle de maladie neurodégénérative, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, est-ce que ça signifie que la SLA est dans la même famille que Parkinson, Alzheimer?
Oui. En bref, c'est qu'on assiste à une mort accélérée des neurones et les neurones ne se régénèrent pas. On a un nombre fini de neurones quand on naît.
Ouais, OK.
Et il n'y a pas de régénérescence possible comme telle. Donc, c'est pas dans la SLA, ce ne sont pas les mêmes types de neurones qui sont atteints que dans la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment le système moteur.
OK. Est-ce qu'on peut permettre de détecter la maladie? Est-ce qu'il y a des signaux avant-coureurs?
En fait, quand le patient commence à ressentir ses premiers symptômes, la maladie est déjà en train de s'installer.
Okay.
On remarque, le patient va remarquer d'abord un peu comme une maladresse, une difficulté à exécuter les mouvements fins d'une main ou, par exemple, la marche en terrain irrégulier va être plus difficile. Ou des fois, c'est prononcer certains mots ou avaler certains types d'aliments. Faut savoir qu'il y a, dans les formes de SLA, il y a la forme bulbaire, là, donc qui touche surtout les muscles qui servent à la parole, à avaler. Mm-hmm. Et puis les formes plus spinales là, qui touchent les membres.
Donc, impossible de faire de la prévention.
Non, c'est ça. En fait, quand on regarde les études, on n'a pas de causes dans l'environnement qui ont été clairement associées à la SLA. Il n'y a pas d'exposition de choses que les gens ont fait dans leur vie qui semblent les prédisposer à développer la maladie.
Et la maladie n'a pas de préférence, c'est-à-dire que tout le monde peut être touché par la SLA?
Oui, je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. C'est sûr que la majorité de nos patients ont entre 50 et 70 ans.
Okay.
Ça semble être le pic de la maladie. Mais il arrive qu'on rencontre des adolescents qui soient touchés ou des personnes beaucoup plus âgées, là, 80 ans et plus.
Mais ce n'est pas une maladie, comme par exemple l'Alzheimer, qui est associée plus à des personnes vieillissantes?
Non, pas nécessairement.
Okay.
On dirait que c'est un peu près... ce qu'on appelait le grand âge, là.
Ouais.
Disons que c'est pas exactement lié au vieillissement comme pathologie.
Et il y a un pourcentage dans certains cas où la cause est de forme héréditaire.
Oui, on a environ 10 à 20 des cas qui sont dits familiaux. Donc, il y a au moins une autre personne dans la famille, un parent du premier degré qui en a souffert. Et il y a une base génétique à ce moment-là. On a identifié une vingtaine de gènes maintenant qui sont plus ou moins fréquents selon les populations.
OK. Vous l'avez dit tout à l'heure, Dr Matt, la maladie évolue très rapidement. On parle de 2 à 5 ans, c'est bien ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, hein?
Oui, c'est ça. Donc, l'espérance de vie est, disons, de 3 à 5 ans. Après 5 ans après le début des symptômes, il y a 25 % des patients qui sont toujours vivants. Puis après 10 ans, il en reste environ 10 %.
OK. Et bon, j'imagine que c'est différent pour chaque personne, mais comment elle évolue, la maladie, c'est-à-dire suite au diagnostic, comment ça va se passer, à quoi on peut s'attendre?
Habituellement, la faiblesse va progresser dans le membre qui est atteint. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une atteinte au début dans la main droite, ça va monter dans le bras, puis ensuite, ça va se propager vers l'autre bras et ou vers les jambes. Et parfois, mais plutôt, ça semble monter, si on peut dire, là, pour atteindre la parole, la déglutition, la respiration.
OK.
Donc, c'est de proche en proche. C'est exceptionnel que quelqu'un, disons, aurait des symptômes dans le bras droit, puis dans la jambe gauche.
C'est extrêmement effrayant comme maladie parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, pas de remède, mais également parce qu'elle est mortelle. Qu'est-ce qui fait qu'on en meurt?
C'est surtout d'insuffisance respiratoire que nos patients vont décéder. Faut réaliser qu'on respire grâce à des muscles, comme les muscles du diaphragme, les muscles entre les côtes. Et ils sont soumis, ils ont aussi des nerfs là, qui leur permettent de se contracter. Et ces nerfs-là aussi sont atteints par la SLA. Donc, c'est souvent la cause de décès. Mm-hmm. Parfois, les pneumonies d'aspiration.
Ouais.
Donc, quand les gens ont de la difficulté à avaler, peuvent aller de travers, disons, et avoir des sécrétions là, qui s'infectent au niveau des poumons. Il y a aussi d'autres complications médicales qui peuvent arriver chez des gens là, entre 50 et 70 ans et qu'on choisit ou pas de traiter selon l'état du malade.
Est-ce que la personne atteinte peut rester à la maison ou elle doit être absolument en milieu hospitalier?
Disons que le maintien à domicile, ça dépend des cas. La plupart des gens veulent rester le plus longtemps à la maison possible, mais on atteint vite les limites des ressources, autant du CLSC que des proches aidants. Il y a des patients qui peuvent vivre jusqu'à la toute fin de leur vie à la maison, mais beaucoup de gens qui vivent seuls ou dont le réseau de ressources est un peu plus limité doivent se résoudre à être hébergés.
Mm-hmm. Est-ce que l'on sait, Dr Matt, si la sclérose latérale amyotrophique est liée ou engendre d'autres maladies?
Pas directement. Il existe la démence frontotemporale, qui est une maladie dégénérative
oui.
aussi, mais qui est plutôt de type une atteinte cognitive, de la mémoire, du caractère, du jugement, et qui peut être associée de symptômes moteurs comme la SLA. Inversement, les patients atteints de SLA peuvent avoir des atteintes cognitives plus légères. Ça dépend de l'intensité des tests neuropsychologiques qu'on fait, mais on peut voir un ralentissement dans la résolution de problèmes, plus de difficultés à prendre des décisions. Mais il n'y a pas d'association, disons, avec d'autres maladies auto-immunes ou autres maladies dégénératives.
Est-ce que le taux de dépression est plus élevé?
Oui, à divers degrés. Mais c'est sûr que la réaction
ouais.
initiale au diagnostic est tout à fait là, normale, là, une réaction de deuil, de déni.
Oui, parce qu'on connaît l'issue.
C'est ça
qui est effrayant. Oui.
C'est ça. C'est pour ça que c'est assez terrible. Je veux dire qu'en moyenne, les gens sont quand même surprenamment résilients. Et même des gens très handicapés nous disent des fois à la fin d'un rendez-vous, « Oh, mais il y en a des pires que moi.
Mm-hmm. »
Ça m'impressionne beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a quand même de la détresse psychologique et des patients qui vivent moins bien ces étapes-là. Et puis, ça ça devient un peu un deuil ou de l'anxiété ou une réaction dépressive là, pathologique mm-hmm. qu'il faut adresser aussi.
Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'existe qu'un seul médicament lié à la SLA. Comment s'appelle-t-il encore?
Ça s'appelle le riluzole. Oui. C'est un médicament qui améliore la recapture du glutamate. On pense qu'il y a une toxicité locale là, aux neurones liée au glutamate. Donc, ça permet de ralentir la progression de la maladie très modestement et d'allonger la survie de quelques mois.
Est-ce que ça fait mal, la SLA?
Non, c'est pas une maladie douloureuse. Comme tel, c'est sûr que certains patients vont avoir des problèmes de spasticité, là, des membres qui deviennent raides, et ça peut être douloureux, mais ça se traite. Habituellement, la douleur, c'est surtout un signe qu'il y a une complication liée à la maladie. Par exemple, une tendinite, un problème de positionnement dans le fauteuil roulant, ou une plaie, par exemple, une plaie de pression.
Mm-hmm. Donc, j'en parlais tout à l'heure, Dr. Matt, le Ice Bucket Challenge, cette campagne pour ramasser des fonds pour la SLA, le fameux saut d'eau glacée a permis d'amasser des millions de dollars. Là. Mm-hmm. Est-ce que, de façon concrète, est-ce que l'on sait ça servira de quelle façon à la recherche?
Oui, ben c'est les associations nationales, surtout, là, qui ont amassé des fonds. En termes de recherche, il y a des bourses pour des chercheurs fondamentaux et pour de la recherche clinique aussi qui sont disponibles. Donc, ça va être redistribué de cette façon-là. Les associations disons provinciales, par exemple SLA Québec, avec ces fonds-là, vont pouvoir aussi donner un peu plus de services aux membres qui sont des associations, qui sont les patients atteints et leurs familles.
Mm-hmm. Vous êtes responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et maladie du neurone moteur au CHUM Hôpital Notre-Dame. Donc, vous accompagnez beaucoup de patients qui souffrent de SLA, bien, qui sont atteints de la SLA. Mm-hmm. Quelles sont les démarches à favoriser quand on reçoit un diagnostic, là, pour bien sûr favoriser là, le reste de la vie parce qu'elle poursuit?
C'est ça. Bien, je pense que c'est important d'être suivi, si on peut, dans une clinique SLA. Il y en a quelques-unes dans la province. Parce que d'abord, bien, il y a souvent un médecin qui connaît bien la maladie, l'évolution, et des professionnels qui peuvent aider à naviguer dans le système de santé. Une référence au CLSC. Activement aussi et bien, parce que malheureusement, la maladie évolue rapidement, les besoins changent, et même si tout le monde y met du sien, même si les patients qui ont la SLA sont priorisés, il semble toujours que les complications arrivent très rapidement, donc il faut être prêt déjà là, que les démarches soient faites. Par exemple, obtenir un fauteuil roulant électrique, ça prend quelques mois, donc on est mieux de le demander avant que ce soit vraiment nécessaire de s'en servir.
Est-ce qu'il y a de l'aide apportée aux proches aidants?
Oui, donc la société SLA a maintenant du Québec a maintenant un groupe pour les proches aidants. Sinon, c'est par les services qui peuvent être offerts par le CLSC, par exemple, du répit, du gardiennage, de l'aide au repas, de l'aide ménagère.
Mm-hmm, mm-hmm. Vous, quel est votre regard sur cette campagne-là? J'imagine qu'en tant que médecin qui côtoie à tous les jours des gens atteints de la SLA, vous avez été contente de l'engouement soudain autour de cette maladie-là?
Oui, je pense que, somme toute, c'est une bonne chose. C'est une maladie dont les patients me disent on n'entend jamais parler, manque de visibilité. Donc, ça a au moins cet avantage-là. Je pense que ça a piqué la curiosité du
grand public. Oui.
Et puis, j'espère que les gens vont voir un peu plus loin. Il y a aussi plusieurs vidéos qui ont circulé. Là. Je voyais sur mon fil d'actualité Facebook là, qui, en fait, montre c'est quoi vivre avec la SLA. Ouais. Et je pense que si les gens sont tout aussi curieux de les regarder que de regarder les gens qui relevaient le défi, ben ça a déjà beaucoup, ça a une grande avancée.
Oui, donc vos patients étaient contents de cette campagne-là. J'imagine que de votre côté, en tant que scientifique, ce que vous souhaitez, c'est que cet argent-là, amassé au cours des dernières semaines, au cours de l'été, va permettre de trouver enfin un remède à cette maladie.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est urgent.
Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Dr Geneviève Match. Je rappelle que vous êtes neurologue au CHUM Hôpital Notre-Dame, responsable de la clinique de sclérose latérale amyotrophique et maladie du neurone moteur. Merci.
Merci.